Chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue pour un nouveau numéro d'En Spectateur, une émission créée en 2012 sur Transistor. Le principe de cette émission, faire la critique et la promotion du spectacle vivant à Lyon. Depuis les débuts de cette émission, nombreux sont les comédiens, comédiennes, musiciens, musiciennes, chorégraphes et metteurs en scène qui y ont pris place derrière ce micro. Les spectateurs sont aussi intervenus pour partager leur point de vue, sans prétention, et c'est avec grand plaisir que nous continuerons à leur tendre le micro. Dans cette émission, je vous invite, une fois relevés de nos strapontins adorés, à nous infiltrer dans les failles du quatrième mur, à faire retour sur ces expériences déplaçantes, inspirantes, qui ne cessent de questionner cette place qui est la nôtre lorsque nous vivons en spectateurs. Dans ce numéro, nous parlerons théâtre, avec deux spectacles qui portent la réalité sociale de notre temps sur le devant de la scène. Le coup de projecteur du jour se dirigera vers le festival Franchir les portes à l'Opéra de Lyon. Nous recevrons Emmanuel Rebel et enfin, nous parlerons cinéma avec des spectateurs de la rétrospective qui se tient actuellement à l'Institut Lumière. Bienvenue dans En Spectateur. Acte 1 de ce numéro d'En Spectateur. Une machine à laver, un tube de crème de jour, une bouée, une galette de riz géante, une chaussure esselée et un spectacle. Un spectacle qui déconstruit les codes de l'ubérisation du monde. Tout cela prenait place il y a quelques jours sur la scène des Subs. Les Subs est un lieu vivant d'expérience artistique et un lieu que je vous recommande vivement de découvrir si cela n'est pas déjà fait. Aux Subs, on vient vivre des expériences inédites de théâtre, de danse, de cirque, de musique. On y découvre aussi des étapes de création d'artistes en résidence dans ce lieu chaleureux. Aller aux Subs, c'est cultiver une précieuse liberté de spectateur. C'est prendre le risque d'être surpris et actif dans notre posture de spectateur. Du 21 au 24 février dernier se jouaient Les Délivrés d'Hélène Hiratchet, une création qui allie danse et théâtre sur un ton burlesque qui joue avec les attentes des spectateurs. Pendant un peu plus d'une heure, nous nous retrouvons dans le studio de danse d'Hélène et de sa mère qui préparent un spectacle. Or, elles sont incessamment interrompues par la livraison d'objets en tout genre qu'elles ont commandés. Sauna pliable, trottinette, casse-croûte, meubles démesurément grands, tout cela s'accumule et interfère dans les entraînements de danse. Comme l'affirme Hélène Hiratchet, l'acte de création n'est pas un acte détaché des contingences matérielles. Mais pas besoin d'être artiste pour que ce spectacle nous parle, à nous, consommateurs. Les délivrés parviennent à nous faire rire des acheteurs compulsifs que nous sommes, parfois. La danse contemporaine chorégraphie à merveille le consumérisme du temps, la manière dont nous nous prenons dans ses rouages. Le livreur du célèbre service de livraison de plats cuisinés infiltre le studio de danse avec burlesque et fantaisie pendant que nous, spectateurs, sommes déroutés. Hélène Hiratchet brise le quatrième mur en se présentant ainsi que sa mère au public et en le conviant à un apéritif. La frontière entre fiction et réel se brouille. Ce qui est d'autant plus jouissif, c'est la manière dont Hélène et sa mère se jouent des spectateurs en les faisant attendre, en ralentissant le mouvement à tel point que cela en devient étrange, inquiétant. Nous voici donc quelque peu déboussolés, et c'est tant mieux. Hélène Hiratchet parle de l'ubérisation du monde, oui, mais traite de ce thème contemporain avec poésie. On comprend que mère et fille se font envahir par les objets livrés, or on remarque une grande créativité de la chorégraphe dans les décors et l'utilisation des objets, des textiles, qui parviennent à apporter des notes de poésie burlesque, là où on ne s'y attendait pas. Le trio mère-fille-livreur danse avec les objets, ce qui est habile et très original dans un spectacle haut en couleurs. L'univers d'Hélène Hiratchet fait varier les registres et nous entraîne dans ses rythmes de danse contemporaine. Elle aborde, avec humour, un thème sérieux et préoccupant qu'elle place sur le devant de la scène. Autre pièce marquante qui fait lumière sur la réalité sociale du temps, c'est « Entre ses mains », pièce de Julie Guichard et portée par la troupe « Le Grand Nulle Part ». Immersion dans le monde hospitalier avec 5 comédiens et comédiennes qui incarnent tour à tour patients et soignants dans l'effervescence des urgences. Entre un arrêt cardiaque, un accouchement, une ponction lombaire, une fausse couche, une perforation du tympan, les soignants et médecins sont pris dans un va-et-vient incessant. Le jeu de la plupart des comédiens est juste, l'énergie déployée sur scène est à la mesure du dévouement qui est celui du personnel des urgences. Entre ses mains nous fait passer par toutes les émotions puissantes que renferment les murs de services de réanimation. Il y a l'attention inlassable des familles, l'annonce d'un décès, ou la résilience et le regain d'espoir. Les comédiens rendent compte remarquablement bien de la gravité qui peut régner entre ces murs, mais aussi et surtout de l'humour des soignants qui font face. Certains sont brisés, remettent en question leur envie de continuer ce métier, alors qu'on leur demande toujours plus d'efficacité sans augmenter les effectifs. Les arrêts maladie des collègues au bout du rouleau sont la preuve d'une saturation générale que la passion du métier peine de plus en plus à pallier. Le propos tenu est nécessaire, sans pour autant que la dimension artistique du spectacle soit laissée de côté. Malgré quelques longueurs, le rythme général de la pièce est assez impressionnant, tant les comédiens donnent de leur personne. Leur capacité à passer d'un personnage à un autre est, il faut le dire, assez époustouflante. Après son passage au Théâtre de la Croix-Rousse, la troupe sera en tournée, notamment à Villejuif, du 8 au 11 mars prochain. De la porte, Ponge écrit « Les rois ne touchent pas aux portes. Ils ne connaissent pas ce bonheur. Pousser devant soi avec douceur ou rudesse l'un de ces grands panneaux familiers, se retourner vers lui pour le remettre en place, tenir dans ses bras une porte. » Plus que de les étreindre, il s'agit de les franchir, ces multiples portes. C'est ce que propose de faire le festival qui se tiendra du 17 mars au 4 avril prochain à l'Opéra de Lyon et au TNP de Villeurbanne. Franchir les portes, c'est le nom de l'édition 2023 de ce festival, et pour en parler, nous accueillons Emmanuel Rebel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Emmanuel Rebel, vous êtes professeur de musicologie à l'ENS de Lyon et professeur d'esthétique au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, et vous présenterez Go Maestro le 18 mars prochain. C'est une conférence d'une heure pour découvrir le festival. Alors vous me direz si je me trompe, mais il me semble que vous êtes mû par l'envie de renforcer le plaisir que les auditeurs ont, et les spectateurs aussi, qu'ils prennent à écouter la musique. En quoi est-ce pour vous nécessaire d'encourager les spectateurs ou les spectateurs en devenir à franchir les portes de l'opéra, d'une philharmonie ou de tel ou tel concert ?
Alors pour moi c'est essentiel déjà parce qu'il faut renouveler les publics et donc il y a un travail de pédagogie à faire à chaque génération, d'autant que les murs d'une salle comme l'opéra ou la philharmonie ne sont pas forcément les portes que la toute jeune génération imagine franchir d'eux-mêmes. Et donc, un travail d'accompagnement peut être possible. Et puis, je pense vraiment plus fondamentalement que par les mots, on peut vraiment augmenter l'intensité du plaisir qu'on entend à écouter la musique.
Oui, parce que franchir ces portes de l'opéra peut être quelque chose d'intimidant, c'est entrer dans un univers qui n'est peut-être pas familier, tout cet univers de l'opéra que propose de découvrir le festival. Et justement, ce festival donc, propose trois œuvres, Les Noces de Figaro de Mozart, Le Château de Barbe Bleue et La Maison du Crime de Haas et Monteverdi. Alors pourquoi avoir réuni ces trois œuvres selon vous ?
Alors le choix dans il faudrait poser la question en fait au directeur de l'Opéra de Lyon, Richard Brunel, qui effectue la programmation. L'idée de proposer lors du festival qui a lieu chaque mois au mois de mars une grande diversité dans ces trois titres, donc il faut qu'il y ait une complémentarité. De fait, avec Mozart sur la pièce de Beaumarchais, on est à la fin du XVIIIe siècle, avec Bartok, on est au début du XXe siècle, et puis une pièce beaucoup plus récente qui a un peu plus de 10 ans de Haas avec ce Bluthaus, la maison du crime ou la maison du sang. Et donc voilà, la diversité, mais aussi une unité thématique. Et cette unité thématique, c'est celle précisément de la porte, qui peut surprendre comme thématique, parce que une porte, rien de plus prosaïque apparemment, a priori, que la porte, sauf que la porte, en fait, charrie tout un imaginaire symbolique extrêmement vaste depuis la nuit des temps et dans toutes les civilisations. La porte, elle est liée à tout un tas de rituels qui sont liés à la naissance, au mariage, à la mort, etc. Et donc, voilà, l'idée était de faire réfléchir à l'idée du passage et du franchissement à travers la figure de ces portes, puisque des portes, il y en a dans chacune de ces trois œuvres et qui jouent un rôle important.
Tout à fait, ce n'est pas qu'un effet d'annonce, en fait. On retrouve ces portes dans chacune de ces œuvres. Emmanuel Rebel, vous êtes l'auteur d'un article intitulé « Musique et littérature, plaidoyer pour la création d'un champ disciplinaire au-delà des disciplines ». Et dans cet article, vous parlez de la rencontre du théâtre et de la musique à l'opéra. Est-ce que les œuvres présentées incarnent ce que vous appelez le rêve de l'œuvre totale ?
Je ne sais pas. Alors c'est vrai que elles ont chacune des particularités différentes. Les Noces de Figaro, on est avec une collaboration extraordinaire de Da Ponte, qui est sans doute l'un des plus grands librettistes de la fin du XVIIIe siècle, et de Mozart, qui est quand même le compositeur que la mémoire a retenu comme très emblématique de son époque. Donc on est face à une espèce de tandem dramaturgique extraordinaire qui s'empare d'un sujet brûlant, puisque la pièce de Beaumarchais est toute récente et donc elle passe à l'opéra. Donc oui, on a une espèce d'union comme ça avec Bartok et donc dans l'univers hongrois, du symbolisme hongrois, sur une pièce de Balázs qui est inspirée de Maeterlinck, le symboliste belge. On est dans un tout autre univers qui est beaucoup plus mystérieux, et là effectivement il y a une espèce d'union entre non seulement la poésie et la musique, je dirais, mais la langue hongroise, son accentuation très particulière, et la musique qui cherche à épouser au plus proche en fait la musique de la langue. Cet opéra est connu pour être finalement l'un des premiers opéras spécifiquement conçus pour la langue hongroise, donc c'est aussi quelque chose qui est très intéressant pour ça, du point de vue de cette intrication finalement très grande entre la langue et la musique, la poésie et les sons. Et puis pour la pièce plus récente de Bluthaus, il s'agit d'une pièce qui, je dirais, se fonde sur un sujet un peu trivial. Il s'agit d'une transaction immobilière, en fait, une jeune fille qui cherche à vendre la maison de ses parents, et donc on va ouvrir beaucoup de portes au cours de cette œuvre. Et il y a non seulement un rapprochement, une union de la musique et du texte, mais aussi parallélisme qui est fait, ou du moins une coprésence, on va dire, du texte parlé et du texte chanté, puisque certains personnages sont des personnages de théâtre sur la scène, et d'autres personnages sont des personnages d'opéra, et donc tout ce petit monde va voisiner concourir à l'œuvre.
Pour la pièce de Barbe Bleue, deux récits seront proposés. Est-ce que c'est un dispositif courant à l'opéra que de proposer successivement deux interprétations d'une pièce, d'une
Non,
œuvre.
Pas du tout. C'est très rare, et c'est vraiment pour ça qu'il faut courir à l'opéra, non seulement parce que l'œuvre est absolument somptueuse, mais parce que... Alors, c'est une œuvre brève, elle dure une heure, et donc c'est un casse-tête pour les programmateurs d'opéra, parce que qui veulent un entracte, parce qu'une soirée d'opéra comporte un entracte, voilà. Il y a des rites sociaux aussi à l'opéra, et donc, en général, on lui accole un autre opéra assez bref, ou bien de Ravel, ou bien de Puccini, etc. Et donc là, l'idée a été de proposer deux fois la même œuvre et le même metteur en scène, qui est un metteur en scène ukrainien, choisit deux visions radicalement différentes. Alors c'est rendu possible par le fait qu'on est dans l'univers symboliste, une œuvre très mystérieuse, cette Judith et Barbe Bleue qui ouvre progressivement les portes de l'intériorité ou de la conscience du propriétaire du château. Enfin, c'est une pièce qui peut se lire vraiment, enfin qui pose beaucoup plus de questions qu'elle apporte de réponses. Une espèce de mystère de l'amour. Est-ce que l'amour est une initiation, on va dire, qui s'ouvre sur quelque chose de positif, ou est-ce que dans tous les cas il est meurtrier, ravageur. Enfin, on peut lire en fait la pièce de multiples façons, et les deux mises en scène en fait vont se faire miroir vont constituer en quelque sorte deux miroirs qui se reflètent l'une l'autre et qui proposent en fait deux réponses radicalement différentes. Dans un cas, Barbe Bleue va être un personnage tout à fait violent, sanguinaire, hein, et dans l'autre mise en scène, à partir des mêmes mots et de la même musique, c'est ça qui est extraordinaire, on va avoir une vision beaucoup plus positive et généreuse du personnage. Donc ça va être en même temps une expérience troublante, parce qu'avec le même texte, la même musique, et simplement une variation de la scénographie, des images, on va en fait entrer dans deux strates de sens très très différentes. Donc je pense que ça va être une expérience passionnante.
À voir, oui. Avec La Maison du Crime, Klaus Guth ajoute à la partition originale un madrigal et un ballet de cour de Monteverdi. Alors, qu'est-ce qu'un madrigal déjà? C'est une question très technique que je vous pose, parce que peut-être que nos auditeurs ne le savent pas. Et qu'est-ce que cela peut apporter à la pièce de Klaus Guth que de la fusionner avec un madrigal de Monteverdi?
Alors, un madrigal, ça désigne tout simplement une chanson dans la Renaissance italienne. Donc, c'est une chanson assez brève, quelques minutes, qui cherche à faire fusionner un poème et une musique. Et donc, l'idée du metteur en scène est d'encadrer, en fait, cet opéra contemporain au début et à la fin par donc une sorte de prologue épilogue tirée d'une musique très ancienne, celle de la Renaissance italienne et de Monteverdi. Et ces madrigaux en fait traitent le sujet des femmes condamnées à errer dans les enfers parce qu'elles ne savent pas aimer. Et cette thématique de l'incapacité à aimer, qui est le sujet de ces madrigaux, va apporter une espèce de contrepoint assez universel au sujet précis de la pièce, qui met en scène une femme, donc qui met, comme je vous le disais tout à l'heure, en vente la maison de ses parents, et qui est même en incapacité d'aimer. Mais à la suite d'une histoire à la fois sordide et tragique, parce qu'elle a été victime d'un viol, de viol répété de son propre père dans cette maison. Donc cette incapacité à aimer s'éclaire d'une toute autre façon, évidemment, dans la pièce contemporaine. Mais voilà, ça crée une espèce de, je dirais, de sas un peu intemporel pour entrer dans le sujet et pour en sortir de façon peut-être assez onirique, finalement.
Donc il s'agit d'une prise de liberté par rapport à l'œuvre originale, même si elle date, je crois, du début du 21e siècle.
Oui, 2011, donc c'est assez récent. Et donc, il s'est agi un peu, en quelque sorte, de la faire... il ne s'agit pas de la réécrire du tout, hein, mais de lui ajouter au début et à la fin deux extraits qui vont la mettre dans une perspective un peu plus large, en fait.
Est-ce qu'un thème commun à ces trois œuvres ne serait pas finalement la liberté de la création?
Oui, sans doute, parce que... Dans l'opéra de Mozart, au temps de Beaumarchais, il est question de liberté, et les portes que ouvre le comte, la comtesse, chérubin, etc., sont aussi des symboles de pouvoir que l'on transgresse ou que l'on affirme. Donc il y a déjà un pouvoir ou une liberté qui est politique ou qui est sociale, et ensuite, évidemment, par voie de conséquence, une liberté qui peut être tout à fait aussi artistique, et c'est aussi ça que symbolisent ces œuvres.
Ce qui permet d'inciter les spectateurs à franchir la porte de l'opéra.
C'est en tout cas le souhait de cette maison, d'ouvrir largement. Et d'ailleurs, dans la journée du 4 mars prochain, il y a aussi une mise en accessibilité de répétition, de travail, des Noces de Figaro. Donc l'idée est vraiment d'ouvrir les portes au sens tout à fait propre de l'opéra aussi, pour inviter à la découverte.
Je vous remercie, et j'en profite pour rappeler à nos auditeurs une actualité. c'est le concert de midi. Alors chaque mois, le Théâtre Cantor accueille des musiciens qui sont en formation au Conservatoire de musique de Lyon. Le prochain concert de midi se tiendra demain, mardi 28 février, et un autre aura lieu, il me semble, le 14 mars. Est-ce que vous voulez en dire un mot, Emmanuel Rebel ?
Eh bien, le 28 février, nous accueillons un jeune quatuor à cordes qui va interpréter deux œuvres de Haydn et de Mendelssohn, si ma mémoire est bonne. Quant au 14 mars, le programme n'en est pas encore fixé.
Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite une très bonne semaine.
Merci.
Aujourd'hui, on rembobine en nous replongeant dans l'Italie des années 1960 avec un film de Pierre Pasolini. Ce film, c'est Théorème. Je vous présente Prune, Gabriel et Anna, trois spectateurs qui ont assisté à la projection de Théorème de Pasolini. Qu'en ont-ils et qu'en ont-elles pensé ? La parole est à eux.
L'histoire d'une famille bourgeoise qui est tout d'un coup, dont le confort bourgeois est tout d'un coup contaminé par l'arrivée d'un étrange visiteur qui vient mettre un peu le chaos dans la famille et qui vient détruire ses habitudes et son fonctionnement.
Je pense que c'est un film sur l'intrusion, avant tout.
Pour moi, c'était vraiment une espèce de réinterprétation de Tartuffe. Pourquoi ? Parce que voilà, il y a cette apparition d'un personnage complètement étranger à la famille et qui vient bouleverser le fonctionnement. Après, bon, la différence, c'est que dans le film, c'est tous les personnages qui sont sous l'emprise de ce visiteur, une emprise quand même qui est vraiment plutôt érotique, sexuelle, alors que bon, dans le Tartuffe de Molière, c'est surtout le père de famille.
Moi, personnellement, je vais un peu tourner en boucle, je pense, mais il y a principalement le fait que l'intrusion, c'est quand même vachement chez Roland Barthes, quoi. Et je trouve que c'est quelque chose qui est... Non, mais sérieusement, c'est quelque chose que je trouve est vachement intéressant sur l'idée qu'il y a que c'est... En fait, c'est très théâtralisé comme film. C'est quand même une très très grande partie du film. Je pense la moitié à peu près, si on regarde, c'est vraiment... Ça se joue dans la maison, autour de lieux, le jardin, le salon, et puis la pièce de la... Les chambres. Oui, effectivement, les chambres et surtout l'endroit pour soi de la gouvernante. Donc je pense qu'il y a quand même l'idée centrale qu'on théâtralise le décor et les personnages finalement ne font que envahir socialement un décor. Il n'y a pas de... Je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a vraiment un récit. Il y a surtout de nombreuses intrusions dans des décors qui sont différents, le décor de la villa bourgeoise et après le décor du village d'enfance visiblement de la gouvernante.
Quelques jours avant, comme c'est une rétrospective à l'Institut Lumière, j'étais allée voir l'Évangile selon saint Matthieu. Je crois que j'ai préféré l'Évangile selon saint Matthieu. C'était très beau, alors que Théorème, je suis restée plus perplexe en voyant ce film.
À l'époque où sort Théorème, le pape est Paul VI et il demande à ce que le film de Pasolini soit attaqué en justice pour obscénité. Pasolini est finalement acquitté et il a dit... Scandaliser est un droit, être scandalisé est un plaisir. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
À la vue de Théorème, j'ai été perplexe, mais pas scandalisée. En revanche, est-ce que j'ai éprouvé du plaisir est-ce que j'ai bien aimé voir le film ? Oui. Mais ça a plus résulté de la perplexité des questions que j'ai pu me poser à la vue du film que du scandale en soi.
Après, on peut comprendre parce que c'est quand même une société sclérosée, c'est la petite bourgeoisie. Oui, bah, par exemple, je reviens juste, la grande bourgeoisie, mais je reviens juste sur la question d'avant, parce que je pense, j'ai vu aussi l'enquête sur la sexualité de Pasolini, qui est une suite d'interviews dans les campagnes italiennes, et il va justement de la bourgeoisie qui va sur la petite ou la très haute bourgeoisie qui va sur les plages, etc., et au contraire, le petit paysan, la petite paysanne qui sont dans les terres extrêmement reculées. Et on voit aussi que la société italienne à ce moment-là a un positionnement très différent par rapport à la question de la sexualité qui est chez Pasolini obsessionnelle quand même. Et le fait que l'Église condamne Théorème, c'est des théorèmes qu'ils ont condamnés en particulier, ouais, le fait que l'Église condamne Théorème, c'est pas si étonnant, et a fortiori en Italie où quand même la religion et le catholicisme se fondent sur la bourgeoisie, sur des principes de la puissance économique. Donc je pense que c'est pas vraiment une interdiction morale qui pèse sur Théorème qu'une interdiction, qu'une peur de l'Église. De voir également attaquer la bourgeoisie en Italie, peut-être attaquer la bourgeoisie en fait partout, c'est d'une façon attaquer la religion.
Il y a un personnage qui fait polémique. C'est le personnage du jeune fils qui devient artiste. Au fond, ce personnage pose une question sur laquelle on s'est penché. Quand y a-t-il art, finalement ?
Parce que j'ai pas de réponse catégorique, moi, personnellement, à dire est-ce qu'il devient artiste, est-ce que c'est un personnage, est-ce que c'est le salut par l'art, etc. Je pense que Pasolini est peut-être trop intelligent pour terminer un film sur le salut par l'art, qui est quand même du vu et du revu dans la littérature et dans le cinéma.
Bah justement, on ne sait pas s'il va être sauvé par l'art. Enfin, le salut par l'art, là en l'occurrence, on voit qu'il produit des œuvres. Mais la question reste... Effectivement, je suis d'accord avec toi que ça reste... Pasolini ne dit pas que c'est le salut par l'art, mais par contre, il montre que le personnage devient artiste. Mais est-ce que le personnage va être sauvé? Est-ce que ça va durer dans le temps? Ça, on ne sait pas.
C'est ça.
Le plan qui m'a le plus marqué, c'est celui où on voit la
domestique qui est en lévitation sur le toit de la maison et avec tout le village qui l'observe. Je crois que c'est le personnage qui m'a le plus intriguée, dont on comprend... Enfin, on bascule complètement dans l'irrationnel, parce que peut-être que les autres personnages, leur comportement peut être un petit peu expliqué, rationalisé, mais le sien, je trouve qu'on bascule complètement dans une forme d'irrationnel, de surnaturel. Et ce moment où elle, juste le plan comme ça, fixe, où elle lévite au-dessus de la maison, et le plan d'après, c'est autre chose, j'ai trouvé ça assez fascinant. Enfin, il y avait une façon assez désinvolte de le faire, comme si, bon, bah voilà, elle est au-dessus de la maison, on n'en parle pas plus.
Normal.
Oui, c'est ça.
C'est quand même, il y a une obsession pour la figure christique, quoi. Enfin, chez Pasolini,
oui, oui, oui.
C'est l'idée de spiritualité et le Christ, c'est, je pense qu'il y a le corps, le travail au corps et le Christ.
La rétrospective de Pasolini se tient actuellement et jusqu'au 23 mars. Sont projetés Acatone, Théorème, le Décaméron ou encore Enquête sur la sexualité, tout cela à l'Institut Lumière. Enfin, dernier coup de projecteur du jour avant le tombé de rideau de ce numéro. Le 23 février dernier se tenait l'avant-première lyonnaise de Mon Crime, nouveau film de François Ozon, qui sera en salle le 8 mars prochain. Mon Crime nous transporte dans le Paris des années 1930. C'est l'histoire de Madeleine Verdier, jeune femme qui aspire à devenir actrice mais qui n'a pas un sou pour payer son loyer. Madeleine est accusée du meurtre d'un grand producteur. Alors, au comble du découragement, épaulée par son amie Pauline, jeune avocate, elle a une idée. Et si cette accusation était un marchepied pour atteindre le succès? À elle, la vie fastueuse, le cinéma, la liberté, mais cela ne tient qu'à un fil jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. Mon Crime met en lumière la condition des femmes dans les années 30, le viol qui n'est pas nommé, la misogynie sans bornes, les stéréotypes de genre, mais aussi la volonté des femmes, leur combat, leurs convictions et leur désir aussi. Leur désir à elles, qui, comme le dit justement le personnage de Pauline, sont mineures par leurs droits et majeures pour leurs fautes. Tel est l'éclairage que Mon Crime porte sur la société du temps qui n'hésite pas à tourner en dérision. En tête d'affiche, les deux grandes révélations du cinéma français, Nadia Tereskiewicz et Rebecca Marder. À leur côté, l'iconique Isabelle Huppert, Fabrice Lucchini, aux côtés d'André Dussolier et même Danny Boone. Comme le fait si bien remarquer Rebecca Marder, ce film est un vrai numéro de troupe. Aucun acteur n'est placé sur un piédestal au détriment des autres. Tous, sans exception, sont dans la lumière. François Ozon, connu pour 8 femmes, Dans la maison ou encore Été 85, fait à plusieurs reprises un beau clin d'œil au théâtre ainsi qu'au 7e art. La mise en abîme y est succulente. Si chacun des personnages fait son cinéma, qui a le bon scénario ? Mon crime est en fait l'adaptation d'une pièce de théâtre de Georges Bert et Louis Verneuil que le réalisateur dit avoir beaucoup remaniée. C'est un pari réussi tant le ton est juste et le jeu d'acteur remarquable. Mon crime sort le 8 mars au cinéma. C'est à ne manquer sous aucun prétexte.
Si vous étiez un plan de cinéma, vous seriez un plan séquence, une contre-plongée ou un plan rapproché ?
Un plan séquence pour la performance.
Une contre-plongée parce que ça donne un regard un peu étonnant sur les choses.
Si vous étiez une tirade de théâtre, vous seriez le non-merci de Cyrano de Bergerac, la tirade de Perdican, tous les hommes sont menteurs, inconstants, toutes les femmes, etc. Ou bien la tirade du misanthrope.
Je pense plutôt celle du misanthrope.
Ouais, moi aussi.
Cyrano de Bergerac.
Si vous étiez un air d'opéra, vous seriez L'amour est un oiseau rebelle de Carmen de Bizet, l'air de la reine de la nuit de la flûte enchantée de Mozart, ou bien l'air de Chérubin dans Les Noces de Figaro.
Carmen.
Les Noces de Figaro.
Je pense à La Flûte Enchantée.
Et enfin, si vous étiez une bande originale de films, Amélie Poulain, Le Parrain ou Forrest Gump ?
Alors surtout pas Amélie Poulain pour moi, Le Parrain parce que c'est un bon film.
Je pense Forrest Gump.
Amélie Poulain.
C'est la fin de ce numéro d'En Spectateur, merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro et d'ici là, n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra ou au cinéma, bref, de vivre en spectateur.